Une vie, une œuvre. Cornelius Castoriadis, né le 11 mars 1922 à Istanbul et meurt le 26 décembre 1997. Philosophe, économiste et psychanalyste, il était l'une des grandes figures de la vie intellectuelle française. Il passe son enfance à Athènes, s'engage très jeune dans le mouvement communiste et gagne la France en décembre 1945. Il créa dès 1946, en compagnie de Claude Lefort, la revue mythique Socialisme ou Barbarie. En 1968, il publie avec Edgar Morin et Claude Lefort, Mai 68, La Brèche. À la fin des années 70, il participe à la revue Libre. À côté de son maître ouvrage, L'institution imaginaire de la société, il est l'auteur d'autres livres fondamentaux, regroupés en une série commencée en 1978, Les Carrefours du Labyrinthe. Cornelius Castoriadis a remis la démocratie au centre de la pensée politique en s'appuyant sur les notions d'institution, d'imaginaire et d'autonomie. Une œuvre qui se situe au cœur des sciences humaines, un portrait proposé par Clémence Marie et Delphine Lemaire, que je vous invite à écouter aujourd'hui.
Alors, Cornelius Castoriadis, oui. Je te demande
Il faut dire Castoriadis.
Dis-le toi-même et comme ça.
Cornelius Castoriadis.
Voilà.
Cornelius Castoriadis.
Mes parents, qui avaient une culture assez française,
oui.
M'appelaient Corneille, mais comme je l'ai découvert après, le Cornelius des Actes des Apôtres,
oui.
Dans la traduction française, s'appelle Corneille.
Ah.
C'est un nom propre bien français. La traduction du Cornelius, c'est Corneille en français.
C'est un philosophe qui est en train de gagner une reconnaissance qu'il n'a pas forcément eue de son vivant. C'était un personnage un peu hors classe. C'était pas un vrai économiste à l'état pur, c'était pas un vrai philosophe à l'état pur, pas un vrai sociologue, pas un vrai historien. En même temps, il était tout ça à la fois. Et du coup, il n'a jamais eu la reconnaissance des historiens, la reconnaissance des psychanalystes, etc. Mais aujourd'hui, on découvre justement l'intérêt de ce personnage qui était un intellectuel global, quelqu'un qui pensait qu'il fallait essayer de penser l'ensemble du pensable. C'est la formule qu'il utilisait, quoi. Il faut penser tout ce qui est pensable. Alors c'est une tâche démiurgique, absolument impossible à réaliser, mais c'était son ambition. Et il est passé de l'histoire de la démocratie athénienne à l'économie de l'Union soviétique, à la théorie de l'inconscient, à la théorie des mathématiques et des ensembles. C'est quelqu'un qui avait pas de frontières, quoi. C'est magnifique.
À partir du moment où on commence à penser vraiment, on entre dans un labyrinthe, c'est-à-dire que on ne sait plus où est l'issue. À chaque nouvelle étape, on se trouve à un carrefour avec des voies qui filent à droite, à gauche. On ne sait pas quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. On la prend à ses risques et périls. Et parfois, après avoir tourné en vain pendant quelque temps, on essaye de retrouver le point de départ, n'est-ce pas? Et parfois, on aperçoit aussi des lumières et on ne sait jamais si c'est des vraies lumières, si c'est la lumière du jour ou des feux follets qui sont plantés là juste pour nous égarer.
Cornelius Castoriadis, un titan dans le labyrinthe.
Un spirit itinéraire, séminaire, savant.
Castoriadis, c'est comme commencement.
Je suis né à Constantinople, on est parti à Athènes quand j'avais 3 mois, et pratiquement j'ai vécu toute mon enfance et toute ma jeunesse à Athènes.
Mon père parlait beaucoup de sa famille, de sa mère qui est morte quand il avait 16 ans, qu'il aimait beaucoup, qui elle était d'une grande famille bourgeoise d'Athènes.
Sparta Castoriadis.
Son père parlait français couramment.
Qu'est-ce qu'il faisait comme métier son père?
Il était marchand. Il vendait des tissus, il vendait des choses, comme ça. Voilà, c'était une vie bourgeoise au centre d'Athènes. Ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il me racontait quand il se promenait la misère à Athènes autour. Les gens qui crevaient de faim, dans la rue, tout ça. Je crois qu'il a. Ça, c'était très impressionnant pour lui. Vers 7-8 ans, il a eu une répétitrice de français. Il a appris le français avec cette fameuse Maximine. Il a appris l'allemand en lisant Kant, ce qui est effectivement un peu particulier.
Mon grand amour, dès que je l'ai connu, c'était Jules Verne. Mon père m'avait acheté la grande encyclopédie grecque dans laquelle je me plongeais constamment. Et puis à 13-14 ans, j'ai rencontré à la fois le marxisme et la philosophie. une des scènes de mon enfance que dont je me rappelle toujours avec une certaine émotion, ça doit être vers 1928, j'avais 6 ans, il y avait des manifestations au centre d'Athènes, et je me vois avec ma mère à la porte de la maison, un ami de mon père était venu le prendre pour qu'ils aillent à la manifestation, et mon père rentrant dans la maison en disant « attendez un peu », pour prendre son revolver, pour partir à la manifestation. Pour moi, ça reste comme une image comme ça de l'engagement politique qui est prêt à payer de son sang. Enfin, bon. Puis ma mère, c'était une personne indescriptiblement gentille, qui jouait très bien du piano, et c'est mon amour de la musique aussi est enraciné là-dedans. Je me souviens des après-midi que je passais assis sur un grand coussin à côté du piano pendant qu'elle jouait du Beethoven, du Chopin, etc.
A comme Athènes.
Le jeune homme à Athènes, à partir de l'adolescence, de la fin de l'adolescence, c'est un jeune homme qui a la tête remplie d'idées, de lectures, de projets, qui se promène dans cette ville qui à l'époque est adorable. Et cette période, c'est pour le Castoriadis d'aujourd'hui, peut-être la plus belle période de sa vie.
Il s'inscrit au Parti communiste, ce qui n'était pas du tout en accord avec son père. Il y avait une dictature en Grèce à l'époque. Ensuite, il y a l'entrée des Allemands. Bon, moi, ce qu'il m'avait raconté, qui m'avait frappé, c'est que pourquoi il a quitté le Parti communiste, c'est à partir de témoignages de gens qui avaient dit que les communistes avaient massacré tout un village, qui avait aidé des résistants plutôt royalistes, enfin disons de droite. Et donc il avait voulu aller voir, il avait été voir, et en revenant, il a déchiré sa carte.
Après une court passage à la fin du lycée sous la clandestinité dans les jeunesses communistes, on a constaté une ligne que nous avons perçue tout de suite comme totalitaire, et moi très tôt, j'ai adhéré à une fraction trotskiste. Fraction qui subissait automatiquement la double persécution des Allemands et de la police collaboratrice grecque, et aussi de la police du PC. J'ai échappé à un poil près à une arrestation, dans des circonstances tout à fait rocambolesques et mythiques, enfin, à 3 ou 4 reprises. Bon. Il y a tout cela, et tout cela est tissé ensemble.
Ce voyage du Matarua, c'est un voyage donc qui est organisé par l'Institut français d'Athènes, par des Français.
À l'automne 1945, l'Institut français d'Athènes a organisé un concours pour des bourses de venir à Paris, et c'est moyennant cette bourse que moi je suis venu en France pour faire des études post-universitaires de philosophie, et avec moi beaucoup d'autres. Il faut pas mythologiser, je sais qu'il y a des gens qui ont dit que nous sommes partis en étant persécutés, c'est pas vrai.
Quand on parle d'exil, je ne pense pas du tout qu'il était dans une situation de se sentir pas chez lui.
Mirto Gondikas.
Il était chez lui, je pense, en tant qu'internationaliste et européen, en France, tout à fait chez lui. Et c'est en français, je dois le rappeler, qu'il a écrit son œuvre. Il a commencé à être traduit en grec dans les années 80 et à partir de ce moment-là, lui-même d'ailleurs se rendait en Grèce et faisait des conférences en grec.
On le reconnaissait tout en ne le reconnaissant pas, si vous voulez.
Zoé Castoriadis.
Il faut voir d'abord un truc qui est capital pour les Grecs, c'est l'orthodoxie. Lui, il était athée déclaré, ça fait un problème pour la droite. Pour la gauche, ce qui fait problème, c'est la critique du communisme.
Sa perspective était plus large. Il a eu dès le début un horizon qui était international. Et il l'a toujours gardé. ce qui n'empêche pas du tout un attachement très profond qu'il avait pour la Grèce, mais qui n'était pas ni une croix, ni une nostalgie, d'après ce que je peux percevoir.
Les Grecs sont libres, créent la liberté, et savent en même temps qu'il y a des limites. Mais ces limites ne sont pas fixées. Un véritable individu ne peut exister que dans un certain type de collectivité. Pour qu'il y ait vraiment des individus, il faut que la collectivité bouge. Et pour que la collectivité bouge, il faut que les individus déjà commencent à devenir différents. Les deux choses vont ensemble. Bon, et c'est ça qui se passe.
A comme autonomie.
Pour moi, une révolution ou une phase révolutionnaire, c'est toujours la constitution d'organes autonomes des masses.
L'autonomie chez Castoriadis, ça se définit par opposition à l'hétéronomie. Alors on pourrait commencer par du coup définir ce qu'est l'hétéronomie.
Manuel Cervera Marzal.
L'hétéronomie, c'est se déposséder de son pouvoir pour le confier à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va prétendre représenter le peuple, mais qui en fait ne représente que lui-même ses propres intérêts, et donc qui dépossède finalement le peuple de son pouvoir. Ça, c'est de l'hétéronomie. Donc les élections, par exemple, c'est de l'hétéronomie. Quand vous élisez quelqu'un, en fait, vous désignez un maître. Donc la représentation, c'est antidémocratique. Ça, c'est une idée centrale de Castoriadis. Il a une formule qui résume parfaitement ça. Décider qui doit décider. Ce n'est plus décidé. Voilà. Donc l'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider par nous-mêmes, individuellement et collectivement. Et un bel exemple de ça pour Castoriadis, c'était la démocratie athénienne, tout simplement, où les citoyens se retrouvaient pour délibérer et pour décider sans passer par l'intermédiaire d'élus ou de politiciens professionnels payés pour ça.
Est-ce comme socialisme?
Mars, avril 1949. Les communistes chinois entrent à Nankin. Mars-avril 1949, premier numéro de Socialisme ou Barbarie.
Déjà en Grèce, il a eu un engagement tout de suite antifasciste et antistalinien. Quand il arrive en France, il poursuit ça en rentrant dans un petit groupe trotskiste, dont il va rapidement sortir avec son ami Claude Lefort, philosophe comme lui, sociologue aussi, pour créer Socialisme ou Barbarie, qui à l'époque était donc un petit groupe de quelques dizaines de personnes d'orientation, on va dire, conseilliste. C'est des révolutionnaires marxistes, mais voilà, mi-chemin entre l'anarchisme et le léninisme. Il y a plein de groupuscules maoïstes, libertaires, socialisme ou barbarie. C'est un petit élément parmi beaucoup d'autres auxquels on prêtait pas forcément attention. Et c'est seulement à partir des années 90 qu'on va redécouvrir l'existence de ce groupe où sont passés beaucoup d'intellectuels comme Lefort et Castoriadis, mais voilà, aussi Debord et quelques autres, et qui a eu en fait une influence, mais souterraine, sur la pensée française contemporaine. Donc voilà, c'était un groupe de théorie et de pratique. Castoriadis a toujours maintenu un lien extrêmement fort entre les deux.
Moi, ce que j'estimais beaucoup dans l'action de Castoriadis et de son groupe Socialisme ou Barbarie, c'est qu'il était extrêmement lucide dans sa critique de l'Union soviétique, qui allait beaucoup plus loin que celle de Trotsky.
Edgar Morin.
Parce que pour Trotsky, l'URSS était quand même un État socialiste dégénéré, et alors que pour Socialisme ou Barbarie et Castoriadis comme Lefort, c'était au contraire un État qui n'avait rien de socialiste et que eux, avec leur langage, appelaient bureaucratique. Il faut dire aussi que Castoriadis comme Lefort et comme moi, on était tout à fait en dehors des courants dominants dans le monde intellectuel. C'était l'époque où a régné un marxisme althussérien, où a régné le structuralisme, où l'idée d'homme, de sujet, d'histoire était éliminée. On était en quelque sorte des minoritaires ou des déviants, ce qui renforçait notre fraternité. Il se trouve aussi qu'à un moment donné, Lefort et Castoriadis se sont fâchés, et malheureusement, je n'ai pas pu les réconcilier.
Les divergences avec Lefort sont apparues quand il a été question d'essayer de transformer ce qui était un petit groupe mais qui avait de grandes ambitions néanmoins. Et le fort, pratiquement dès le début, n'a pas cru qu'il était possible de faire autre chose qu'une revue et que même tout effort pour transformer le groupe en une organisation plus structurée ne pouvait aboutir qu'à une nouvelle organisation bureaucratique.
Enrique Escobar.
Au printemps 63, je suis entré au groupe. J'ai eu la possibilité d'assister quand même à une scission, ce qui, dans ce type de groupe, était un des grands événements. Celle de la toute dernière phase qui correspond à la rupture de Castoriadis avec Marx.
L'institution imaginaire de la société, 1975.
Cette transformation du marxisme en théorie achevée contenait la mort de son inspiration révolutionnaire initiale. Elle signifiait une nouvelle aliénation au spéculatif, car elle transformait l'activité théorique vivante en contemplation d'un système de relations données une fois pour toutes. Elle contenait en germe la transformation de la politique en technique et en manipulation bureaucratique. L'aliénation ne consistait pas, bien entendu, dans la théorisation, mais dans la transformation de cette théorisation en absolu.
Castoriadis, en même temps, jusqu'au bout, a considéré que Marx était un immense penseur, bien entendu, et a continué de le lire. Mais, pour lui, l'histoire avait tranché. Dans ce petit groupe d'une trentaine de personnes que j'ai connues, il y avait surtout beaucoup d'étudiants, quelques employés, des intellectuels, des professeurs. Il y avait une très grande curiosité intellectuelle. On s'intéressait vraiment à tout, au mouvement féministe, au mouvement étudiant et jeune en tant que tel. Les principaux textes qui ont défini l'orientation du groupe et de la revue étaient de Castoriadis. C'était une très très forte personnalité, un personnage extraordinaire et qu'il était impossible de ne pas l'écouter quand il prenait la parole. Cela dit, il y avait dès le début dans le groupe des personnalités aussi très fortes comme Souri ou Lyotard ou Lefort. Mais hélas, nous n'avons jamais réussi à établir un contact satisfaisant avec le monde extérieur. Castoriadis, lentement, a perdu ses illusions. On a décidé de s'autodissoudre, ce qui a fait rire beaucoup de gens qui ont dit « Oh, oh mon Dieu, un an avant 68, quel aveuglement !» On n'a pas vu venir, personne n'a vu venir ce qui allait arriver en 68.
Mai 68, quand les étudiants de Nanterre ont occupé d'abord Jussieu, avant d'occuper la Sorbonne, j'avais été voir et j'avais aussitôt alerté Castoriadis et Lefort en disant « Venez, venez ». Donc, nous avons chacun, à notre façon, essayé de comprendre ce mouvement. On a réuni nos textes dans un livre qui s'appelle « La brèche ». Une brèche était faite au-dessous de la ligne de flottaison du navire majestueux de notre civilisation, mais que c'était pas encore la révolution, mais que c'était les germes d'un monde futur.
Ils se protègent avec leurs boucliers. Quelques boulons volent. Les étudiants maintenant essayent de renverser une 404.
L'interprétation de mai 68 en termes de préparation ou d'accélération de l'individualisme contemporain constitue une des tentatives les plus extrêmes que je connaisse de réécrire en dépit de toute vraisemblance une histoire que la plupart d'entre nous avons vécue. D'altérer le sens des événements alors qu'ils sont encore, si je peux dire, presque chauds. Tout ce qui a introduit une novation formidable est, dans cette perspective, gommé. Les semaines de fraternisation et de solidarité active, où l'on adressait la parole à n'importe qui dans la rue sans craindre de passer pour fou, leur vérité aura donc été l'égoïsme hédoniste. dans et par le mouvement de mai a eu lieu une formidable resocialisation, même si elle s'est avérée passagère. Les gens ne demandaient pas à sentir la chaleur et l'odeur les uns des autres, ni seulement à être ensemble. Ils étaient animés par les mêmes dispositions. Négativement, un immense rejet de la futilité vide et de la bêtise pompeuse qui caractérisait alors le régime gaulliste, comme aujourd'hui le régime mitterrando-chiracien. Positivement, le désir d'une plus grande liberté pour chacun et pour tous.
Castoriadis. Te com travail.
Vous avez fait mille et une choses. Vous avez été statisticien à l'OCDE.
Non, je n'ai pas été statisticien. J'étais économiste. Je faisais de l'analyse économique.
Alors, économiste à l'OCDE. Bon. Vous avez été... Vous êtes toujours philosophe. Vous vous êtes donné le moyen de devenir psychanalyste il y a une quinzaine d'années.
Il y a une vingtaine.
Il y a une vingtaine d'années. Et vous êtes... vous faites des séminaires pléthoriques aux hautes études.
Alors, je suis directeur d'études, oui.
Voilà.
Il rentrait de l'OCDE à 7h du soir pile, on dînait, il jouait du piano.
Sparta Castoriadis.
Et à 9h, comme il disait, tout le monde rentrait dans ses appartements. Moi j'allais dans ma chambre et lui, bon, travaillait jusqu'à 1h du matin, 2h. Et le lendemain matin, il partait pas très tôt d'ailleurs à son travail, il se levait à 9h, à 9h15. Il travaillait quand même beaucoup aussi à l'OCDE, parce qu'il faisait tout son travail de fonctionnaire, économie, etc., en 2-3 heures, et puis le reste du temps, il travaillait pour lui.
Castoriadis est devenu citoyen français en 70, et il a quitté à la même date l'OCDE, où il était entré en 1948. En tant que fonctionnaire international, Castoriadis était tenu à la clandestinité la plus totale. Enfin, c'était une double clandestinité, en tant qu'étranger et en tant que fonctionnaire international. Il a grimpé différents échelons dans la hiérarchie de l'OCDE et il avait un poste très important quand il est parti.
Rien n'était séparé. Il n'y avait pas de compartimentage. Bon, les femmes avec qui il vivait étaient là à la maison, les gens du groupe venaient à la maison. Bon, là où il séparait, il essayait de compartimenter, c'est par rapport à son travail. Parce que la question, c'était qu'il était quand même dans un organisme financé par les Américains, et qu'il avait un sommier politique, enfin, c'est-à-dire que la préfecture de police de Paris savait tout. Et quand mon père a été embauché à l'OCDE, il a dû jurer qu'il n'avait rien à voir avec les communistes, évidemment. Trotsky, je ne sais pas si on lui a demandé, donc il a à moitié menti. Enfin, moi, je me souviens, en 68, j'ai des amis qui étaient au PSU qui me disaient « Oui, ton père, c'est un agent de la CIA, etc. et tout. » Il était encore, d'ailleurs, à l'OCDE à l'époque.
Son travail à l'OCDE lui plaisait ?
Non, il s'emmerdait. Bon, c'était quand même, il avait un bon salaire et ça lui permettait de financer aussi la revue, etc.
Comme organisation.
Elle se levait pas très tôt. Hein. Et il plongeait dans la baignoire avec le Herald Tribune qui était déjà arrivé. Donc il exploitait aussi son temps de la baignoire. Et après, il se mettait à travailler dans ce bureau-là. Il y avait d'un côté la préparation de séminaire ou des urgences s'il devait présenter un article sur quelque chose ou une conférence.
Zoé Castoriadis.
Bon, alors là, c'est la visite guidée des lieux.
C'était son bureau qui était ici ?
C'était la consultation.
C'était là le divan.
D'accord. Et donc lui était dans le fauteuil ?
Dans le fauteuil qui était là. D'où d'ailleurs les marques sur le plancher.
Quand Castoriadis est mort, sa deuxième femme, Zoé, a tout de suite pensé à me demander de venir cataloguer ce fonds, comme ça.
Myrto Gondikas.
Et ça s'est passé dans ce qui était l'appartement de Cornelius Castoriadis, rue de l'Albonie, dans le 16e arrondissement, dans un immeuble où a été tourné aussi, comment s'appelle ce film, avec Marlon Brando et un beurrier, Le Dernier Tango à Paris.
C'était toujours là.
Donc la plus grande pièce de l'appartement, c'était le bureau.
C'était le bureau, la consultation et la rotonde qui était la salle d'attente.
Et dans le bureau, il recevait des gens aussi ?
Ah non, non, là, il travaillait. Donc, de toute façon, vu le papier partout, on passait à peine.
Et il y avait déjà ce portrait de Marilyn Monroe ?
Ah oui, 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 c'était un cadeau de ma part pour l'inspirer.
En ouvrant les boîtes, en plongeant dans le contenu des différents textes, on a l'impression, en effet, de prendre une impression, un goût, peut-être même le style d'une pensée.
Cet homme est intelligent, il le sait. Mais ce qu'il ignore sans doute, c'est à quel point le rendement de son intelligence est parfois compromis par ses troubles affectifs.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son écriture et du caractère qui se révèle dans cette écriture ?
Alors, pour le caractère, il faudrait un graphologue. Alors, il existe quelque part un test graphologique de Castoriadis. Non, pas vraiment.
L'idée de pouvoir se tromper et du même coup perdre la face lui est insupportable. Sa volonté sur autrui se manifeste sans brutalité. Il préfère séduire et convaincre qu'imposer.
Il peut y avoir des strates très différentes à la fois par les thèmes et par la chronologie. Réunis par Castoriadis dans une même unité, disons une boîte, hein, soit en français, soit en grec, parfois en anglais, qui était sa langue de travail pour l'économie, quelquefois en allemand pour la philosophie. Les notes pouvaient voyager beaucoup, être regroupées. Il était courant de voir un texte tronçonné, collé à d'autres, repris. On peut avoir un texte qui évolue d'une langue à l'autre, et puis des époques très différentes qui sont montées ensemble, montées, remontées. Et par exemple, une catégorie qu'il avait créée à son propre usage et qui est très parlante tombe sous le mot « germinal ». Donc « germinal », c'est comme le roman de Zola, et je pense que ça n'est pas du tout neutre pour quelqu'un comme Castoriadis. Et ce qu'il mettait là-dessous, c'était des choses extrêmement diverses qui n'avaient comme point commun que de pouvoir servir à des projets en cours à moyen ou à long terme.
J'essaye d'écrire comme quelqu'un qui veut être compris de tout le monde. L'autre jour, vous me disiez que j'écris comme un anglo-saxon, de façon très pragmatique, etc.
C'est vrai, ça c'est vrai.
J'ai pas de modèle, j'écris comme je le sens, j'écris comme ça me vient. Si j'ai un modèle d'écriture dans ma tête, c'est Aristote.
Castoriadis. R comme révolution.
Il y a une espèce de passion rebelle qui se manifeste et avec entêtement. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous vous trompez pas du tout, mais moi je dirais pas rebelle.
Non ?
Je dirais révolutionnaire.
Il faut voir hein, que donc Castoriadis il décède en 1997. Donc 1997, c'est ça y est, ça fait 20 ans que, en gros, pour le dire vite, la tendance au niveau mondial, elle est donnée par Margaret Thatcher, Ronald Reagan et François Mitterrand qui déclinent la dérégulation de la finance en France. Donc c'est ça ce que voit Castoriadis sur les dernières années de sa vie.
Ce qui caractérise le monde contemporain, c'est précisément l'insignifiance. Il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette espèce de nullité de la politique, de devenir nul de la politique, et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie, etc., etc., n'est-ce pas ? Dans la littérature. Et c'est ça l'esprit du temps.
Il était probablement plus optimiste jusqu'à 40, 45 ans, peut-être un peu plus pessimiste sur la fin de sa vie, mais encore que, non, on trouve les derniers entretiens avec lui. Il plaçait toujours ses espoirs dans une révolution anticapitaliste et conseilliste. Quand Castoriadis a arrêté le militantisme pour devenir économiste à l'OCDE, puis professeur, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, on pourrait dire, ah bon, ben là, il y en a certains qui le disent. Là, c'est le deuxième Castoriadis, il y avait le jeune Castoriadis militant, et il y a le deuxième Castoriadis, le professeur, qui voilà, s'éloigne des causes militantes. Effectivement, il quitte le militantisme révolutionnaire, mais à ce moment-là, il se forme en tant que psychanalyste, et ça, pendant les 20-25 dernières années de sa vie, il va exercer de manière quotidienne en tant que psychanalyste. Et ça, c'est une autre forme de pratique. Finalement, c'est ce que fait le militant révolutionnaire, aider la classe ouvrière à s'émanciper du capitalisme, et c'est ce que fait le psychanalyste, aider le névrosé à s'émanciper de la répétition de ses névroses. Donc il y a un lien vraiment fort entre la pratique psychanalytique et la pratique révolutionnaire pour Castoriadis.
I comme institution imaginaire.
65-66, il a commencé une analyse, il a été au séminaire de Lacan, il a rencontré Pierre Aulagnier, c'était une vraie rencontre amoureuse et pas seulement amoureuse entre deux, et il a fait deux analyses, ensuite il a fait une troisième analyse avec quelqu'un du quatrième groupe. Il n'avait pas été satisfait du tout de ses analystes. Il lisait Freud, il écrivait, il y avait déjà en mouvement l'institution imaginaire de la société qui a été publiée en 1975.
Ce qu'on a appelé le quatrième groupe psychanalytique, qui a été fondé par Pierre Valabrega, Perrier et d'autres, bien qu'à l'époque je ne fusse pas psychanalyste et que j'étais dans les coulisses, je crois que pour une bonne partie, enfin du moins pour ce qui concerne Pierre, comment dire, a été conditionné par la critique de plus en plus sévère que je faisais de Lacan, de ses méthodes, et la pression que j'exerçais sur elle en disant « mais c'est pas possible, vous pouvez pas continuer à rester avec ce monsieur qui plonge de plus en plus dans un arbitraire délirant ». Enfin, c'était ça l'évolution de Lacan.
C'est Pierrat qui m'avait annoncé qu'il avait décidé de s'installer. Donc c'était dans l'appartement qu'ils habitaient, où malheureusement il a vendu le piano. Il y avait un beau piano demi-queue. Bon, il l'a vendu, il a mis un divan à la place. Là, il s'est installé comme analyste. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il soit psychanalyste, parce que c'est quelqu'un qui aimait énormément parler. Donc je me suis dit, comment il va faire pour se taire? Mais bon. Ce que je sais par des amis qui ont eu des amis qui ont fait une analyse avec lui, je pense que tu étais un très bon analyste.
Ce qui est spécifique, c'est pas sa façon d'être psychanalyste. C'est spécifique, c'est que dans sa pensée, il a pu rapatrier qu'est-ce que c'est qu'une psyché, comment ça fonctionne une psyché, etc. Parce qu'il a eu cette pratique. C'est ça qui est spécifique.
La jonction, ça a été faite pour moi avec ce qui a été ma découverte ou ma redécouverte de l'imagination et de l'imaginaire, de l'imagination au plan de la personne humaine singulière, ce que j'appelle l'imagination radicale, et l'imaginaire au plan social et historique comme fondateur des institutions sociales, comme créateur des institutions sociales. Et là, évidemment, on voit tout de suite, bien entendu, que c'est incompatible avec n'importe quelle position marxiste ou marxienne ou marxisante.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était d'abord intéressé par le social, puisque son concept de social historique est à différencier du socio-historique, parce que c'est vraiment l'idée des constructions significatives d'une société, que la société se construit d'abord et avant tout sur de l'imaginaire. Ça, c'est vraiment le fond fondamental.
Florence Juste Desprairies.
Mais au lieu de rester là, finalement, il s'est posé la question aussi de la psyché. Il essaie de comprendre le social historique et l'institution de la société à partir de ce qu'est l'homme. Devenir psychanalyste, c'était ne pas être en seconde main par rapport à une compréhension de la psyché, c'était y être et essayer de voir comment fonctionne la psyché
dans cette perspective que la psyché, sa spécificité, c'est de produire de l'imaginaire.
L'institution imaginaire de la société, 1975.
Le monde social est chaque fois constitué et articulé en fonction d'un système de telle signification. Toute société jusqu'ici a essayé de donner une réponse à quelques questions fondamentales. Qui sommes-nous comme collectivité? Que sommes-nous les uns pour les autres? Où et dans quoi sommes-nous? Que voulons-nous? Que désirons-nous? Qu'est-ce qui nous manque? La société doit définir son identité, son articulation, le monde, ses rapports à lui et aux objets qu'il contient, ses besoins et ses désirs. Sans la réponse à ces questions, sans ces définitions, il n'y a pas de monde humain, pas de société et pas de culture. Car tout resterait chaos indifférencié. Le rôle des significations imaginaires est de fournir une réponse à ces questions. Réponse que, de toute évidence, ni la réalité ni la rationalité ne peuvent fournir.
Ce qui fait symptôme, c'est aussi ce qui fait symptôme dans la société d'une certaine façon. Mais à l'époque, il y avait quand même cette idée qui était que ce qui se passe dans la cure, c'est du psychique. Indirectement, il a participé, il a contribué à faire que la question sociale soit beaucoup plus au cœur de la question psychique pour la psychanalyse. Enfin, beaucoup plus, peut-être pas tant que ça, mais quand même par un certain nombre de psychanalystes.
La tâche de l'analyse, c'est de libérer l'imagination. Ça ne veut pas dire de faire que le sujet fasse n'importe quoi, qu'il ignore toute loi, toute limite, etc. Autonomie, d'ailleurs, ça veut dire « je m'impose une loi ». Qu'est-ce que c'est, finalement, que la maladie psychique? Bon, eh bien, c'est le blocage de l'imagination. C'est essentiellement cela. Ah oui, c'est-à-dire, il y a un construit imaginaire qui est là et qui arrête tout le reste. C'est comme ça. La femme ou l'homme, c'est ça et pas autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est uniquement ça et pas autre chose. La psychanalyse vise aussi à restaurer au sujet un autre rapport avec son inconscient. Quelle a été la procédure de la société à l'égard des pulsions qu'elle ne pouvait pas accepter ou qu'elle pouvait pas contrôler? Ça n'a pas été de dire seulement, et c'est ça le surmoi d'ailleurs, entre autres, tu ne feras pas cela. Mais ça a été de dire, tu ne désireras pas cela.
A comme adversaire.
Quand Castoriadis publie l'ouvrage qui est sans doute son grand livre et qui l'a fait connaître dans un milieu beaucoup plus large, qui est l'institution imaginaire de la société,
Enrique Escobar.
Il y a eu en même temps, à partir de cette même date, la naissance d'un mouvement intellectuel antitotalitaire.
Des nouveaux philosophes.
Si l'on veut, oui, disons que les nouveaux philosophes, Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy, ont surfé là-dessus. Enfin, ils ont pris le train en marche, mais ils ont joué un rôle, certainement. Bon, Castoriadis ou Lefort pensaient beaucoup de mal de Glucksmann et de BHL.
Vidal-Naquet avait eu en main le Testament de Dieu.
Le livre de Bernard-Henri Lévy.
Voilà. Il a trouvé plein de fautes, de contre-vérités. Et il a écrit une lettre. Alors, évidemment, personne n'a publié la lettre de Vidal-Naquet, sauf l'Observateur, en coupant certaines parties et avec une réponse de BHL. Alors, le pauvre Vidal-Naquet, il était désespéré, il a appelé Corneille, il lui dit « Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Bon, bref, il a lu le livre. Et il a écrit le fameux texte « L'industrie du vide ».
Ne pas se dresser contre l'imposture, ne pas la dénoncer, c'est se rendre co-responsable de son éventuelle victoire. Plus insidieuse, l'imposture publicitaire n'est pas à la longue moins dangereuse que l'imposture totalitaire. Par des moyens différents, l'une et l'autre détruisent l'existence d'un espace public de pensée, de confrontation, de critique réciproque. Il faut en effet un fantastique mépris de son propre métier, de la vérité certes aussi, mais tout autant des lecteurs pour inventer des faits et des citations. Des individus richement pourvus de ces absences de qualité ont existé de tout temps. Généralement, ils faisaient fortune dans d'autres trafics, non dans celui des idées. Une autre évolution a été nécessaire, celle précisément qui a fait des idées un objet de trafic. Des marchandises consommables une saison et que l'on jette, oublie, avec le prochain changement de mode.
A comme amitié.
Kasseria 10, fin 70, est entré à l'école des hautes études. Et là, il a commencé à établir des liens avec des gens qui partageaient un peu la même critique du totalitarisme qu'il avait connu avant dans la revue Libre, Claude Lefort, Marcel Gaucher. Je sais qu'on a beaucoup reproché, dans certains milieux, ultra-gauche, etc., on a reproché à Kasseria 10 d'avoir fréquenté des gens comme Ferry ou Renaud, Gaucher aussi, etc. Ce qui est un peu ridicule, c'est des gens qu'il voyait et qui discutaient avec une parfaite clarté. Chacun savait quelle était la position de l'autre. Je sais que Ferry a parlé de tout ça dans ses souvenirs.
Dans mon enfance, dans ma jeunesse, on disait, mes amis disaient socialisme ou barbarie.
Luc Ferry, France Culture, 2018.
Hein, Claude Lefort, Kasseriadis, que j'étais très ami avec Kasseriadis, bon, qui étaient les anti-totalitaires de gauche, donc ils restaient à gauche. Donc c'était vraiment l'origine de la gauche démocratique en France, d'une certaine manière. Enfin, de cette gauche-là, qui à mon avis, ce qu'il y avait de meilleur. Ça a donné Rocard, si vous voulez. Bon, et donc, à mon avis, ce qu'il y avait de meilleur à gauche. Bon, Manuel Valls.
Je suis viscéralement anticapitaliste, si vous voulez. Libéralisme, c'est un mot trompeur. On appelle les pays occidentaux des démocraties, mais au fond, c'est des oligarchies libérales.
Comment vous vous situez, vous, par rapport à tous ces débats sur la monnaie unique, sur les critères de Maastricht?
Je serais tout à fait partisan pour une unification des nations européennes, mais dans un cadre vraiment démocratique. Or, l'Europe qu'on est en train de fabriquer maintenant, qu'on est en train de fabriquer depuis Maastricht, c'est une Europe de la finance, c'est une Europe de l'industrie, c'est une Europe de l'idéologie néolibérale, et c'est cette Europe-là, moi je m'en veux pas. Cette partie de la dernière quatrième symphonie de Schumann, pour moi, illustre admirablement ce qui est de plus en plus un des objets, des thèmes de ma pensée. C'est vraiment le chaos, l'abîme, le sans-fond. Et de ce chaos, de cet abîme, surgit inexplicablement, mais avec une évidence totale, une forme parfaite qui est la mélodie triomphale. Il peut y avoir une position philosophique qui a été d'ailleurs la position classique de la philosophie, qui exclut la création à partir de l'idée que pour que quelque chose soit créé, cela veut dire que c'était possible. Je pense profondément que, en histoire notamment, nous avons ce surgissement de formes, cette création qui commence tout simplement par l'autocréation de la société humaine en général.
De l'âge de très jeune enfance, il a suivi des leçons au conservatoire à Athènes de piano et de composition.
Zoé Kasseriadis.
Il y avait un piano ici dans l'appartement ?
Il y en a toujours. Il y avait des soirées musicales, pas mal de soirées musicales. Il y avait tous les classiques, évidemment, et le jazz et le flamenco. Et aussi certains morceaux populaires grecs. Il aimait bien les jeux. Alors ça, je vais vous raconter quand même une anecdote. Il était invité un matin à France Culture avec Ferry. Donc, il y avait Philippe Reynaud qui avait entrepris de dire à chacun avant l'émission qu'est-ce qu'il devait placer comme phrase.
Réplique.
Corneille devait placer...
Alain Finkielkraut.
Des pâtes, oui, mais des panzani.
Nous serons d'accord pour dire qu'une culture du dissensus, au sens qui est dite là, se heurte encore au même reproche d'absurdité, c'est-à-dire la question n'est pas de mettre d'accord les immigrés et les Français et les je ne sais pas qui sur
les
goûts musicaux ou sur le fait que les pâtes panzani sont les meilleures pâtes du monde.
Castoriadis, si vous voulez, à partir de ces années 60,
Edgar Morin,
avec Claude Lefort, ce sont mes compagnons qui, pour moi, étaient devenus les plus proches intellectuellement et affectivement.
Muse, donne-moi voix que je chante au moment du geste fatal.
Dans ces 70 ans, il y a eu une cérémonie.
Le berger.
Et j'ai fait et j'ai lu un poème en son honneur. J'ai fait une ode à Corneille.
Et s'il devint disciple de Freud, de Corneille Castoriadis, il ne put commettre.
On faisait parfois bombance au restaurant ou chez lui ou chez moi. Et puis je me souviens de rencontre avec Octavio Paz chez lui. Avec Castoriadis, qui était un personnage très véhément. Mais on avait des discussions qui semblaient, pour quelqu'un d'étranger, d'une extrême violence, et dans l'extrême amitié, on s'engueulait, on criait. Moi, je me souviens que j'avais amené ma nouvelle épouse à un dîner, mais elle m'a dit, mais vous êtes tous fâchés l'un avec l'autre. J'ai dit, oh non, au contraire, on est très amis.
Dès comme débat.
On pouvait, par exemple, ne pas être d'accord. C'était une famille grecque d'Istanbul, puisque la Grèce a longtemps fait partie de l'Empire ottoman. Donc, il avait gardé quand même, à l'égard de tout ce qui est un peu ottoman et par extension arabe, une méfiance. Quand il me parlait des Arabes ou des Turcs, il me disait « c'est des marchands de tapis ». Moi, je disais « c'est pas que ça ».
S'il y a eu une nation conquérante du 7e ou 11e siècle, ce sont bien les Arabes.
Les carrefours du labyrinthe, la montée de l'insignifiance.
Et où en sont-ils politiquement à l'heure actuelle? Ce sont des pays où les structures du pouvoir sont soit archaïques, soit un mélange d'archaïsme et de stalinisme. On a pris le pire de l'Occident et on l'a plaqué sur une société culturellement religieuse. On dit à peu près aux Arabes « jeter le Coran et acheter des vidéoclips de Madonna ». Et en même temps, on leur vend à crédit des mirages. S'il y a une responsabilité historique de l'Occident à cet égard, elle est bien là. Le vide de signification de nos sociétés au cœur des démocraties modernes ne peut pas être comblé par l'augmentation des gadgets. Et il ne peut pas déloger les significations religieuses qui tiennent ces sociétés ensemble. La lourde perspective de l'avenir est là. L'effet de la guerre, c'est déjà, ce sera demain davantage, l'accentuation de ce clivage rejetant les musulmans vers leur passé.
Une certaine tension dans sa pensée entre un projet politique qui malgré tout est universaliste, qui est le projet d'autonomie, et Castoriadis est persuadé évidemment que ce projet vaut à prétention à vouloir pour tous les hommes, et une ontologie qui a une pente quand même relativiste. Voilà, et c'est ce qui fait d'ailleurs un des intérêts de sa pensée, c'est comment on peut tenir les deux choses ensemble.
Olivier Fressard.
Prenez pas de pincettes. Il aimait la joute intellectuelle, et ça, il y avait quelque chose de grec probablement chez lui, dans son analyse de la Grèce ancienne, on peut faire le lien. À un moment, il traite de l'esprit d'agone, hein, qui donne en français agonistique. C'est cet esprit très particulier de la lutte. Il publie à ce moment-là un ouvrage à charge contre l'URSS, dont la suite n'a pas été publiée, mais il y avait un deuxième qui était prévu. Et je me souviens très bien qu'il a participé aussi à une émission de télévision. Je crois bien que c'était la première fois qu'il apparaissait à la télévision.
Professeur Castoriadis, vous avez vu beaucoup d'uniformes dans ce journal télévisé.
Il montrait que la société russe, la société russe de l'URSS, ne se portait pas globalement très bien, mais qu'il y avait un secteur tout à fait à part, séparé du reste de la société, qui était la société militaire, le secteur militaire, qui lui était extrêmement performant. C'était comme deux sociétés distinctes, et ce secteur militaire extrêmement performant était capable de rivaliser et de menacer les États-Unis.
J'ai parlé de ce que j'appelle la stratocratie.
Mais dans ces analyses, vous voyez absolument pas le changement venir, et quand la perestroïka s'est affirmée avec Gorbatchev, vous voyez qu'il est extrêmement sceptique à l'égard de ce mouvement. Ce qu'il n'avait pas vu, curieusement, alors qu'il aurait dû être très sensible à cet aspect-là, c'était le mouvement de la société elle-même.
Oui, il s'est trompé, puisque ce système qu'il présentait comme redoutable s'est effondré quelques années plus tard. Mais il s'est pas trompé en ce sens qu'il a immédiatement vu que le gorbatchevisme était à long terme impossible. C'est-à-dire que ces différents éléments, prédominance d'une couche militaire industrielle, pouvoir absolu sur les populations et exploitation des passions nationalistes et tendances vers l'expansion, pourraient caractériser dans les années à venir des sortes de petits frères de cette société stratocratique disparue.
I comme itinéraire.
Au cœur de l'époque moderne, depuis la fin des âges obscurs, deux significations imaginaires sociales intrinsèquement antinomiques, quoique liées. L'autonomie, d'une part, l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle, d'autre part, qui sans doute culmine avec le déferlement de la technoscience.
Les carrefours du labyrinthe, le monde morcelé, 1987.
La science est, ou devrait être, contrairement à ce qui s'est passé depuis Hegel, objet de passion pour le philosophe. Mais nous devons distinguer la portée philosophique et les virtualités pratiques abstraites de la science de sa réalité sociale historique, du rôle effectif qu'elle joue dans le monde contemporain et dans son immense dérive.
C'est quelque chose qui l'intéressait énormément et qui allait aussi avec sa réflexion sur la démocratie comme régime de l'autonomie, mais aussi, point très important, régime de l'autolimitation. Et ce qu'il voyait à l'œuvre, je pense que c'est toujours aussi vrai aujourd'hui, c'est même éclatant, la démesure dans les recherches techniques, dans le développement de la science, c'était que, comme il disait, aujourd'hui, si quelque chose peut se faire, on le fera de toute façon.
Alors, pourquoi le mouvement écologique est insuffisant à mon avis? Parce que il ne fait pas la critique que, pardonnez-moi, j'ai fait depuis 1956 de la technique contemporaine de notre point de vue. C'est-à-dire que cette technique est hostile à celui qui l'utilise, à l'ouvrier, et que ce dont nous avons besoin, c'est une transformation de la technologie, non seulement pour produire des draps qui durent 60 ans, mais nous avons besoin d'une transformation de la technologie qui instaure une certaine liberté des hommes dans leur travail.
Dans sa vie quotidienne, dont il n'était pas quelqu'un à acheter 10 pantalons, 20 chemises, je ne sais pas quoi. Bon, non, il était plutôt économe.
J'ai lu qu'il aimait bien les voitures.
Ah oui, alors ça, c'était, je pense, dans une période avant moi.
Je crois qu'avec sa première paye de CDE, il a acheté une voiture. Une voiture américaine, et il mangeait sur des caisses, enfin, voilà.
Quand vous voyez dans Sunset Boulevard l'Isotta Fraschini que Eric von Stroheim conduit, c'est une voiture absolument d'une beauté splendide, n'est-ce pas? Je sais pas moi, les Packard, les Mercedes décapotables avant la guerre. Bon, maintenant c'est quoi? Maintenant c'est de la ferraille sans forme. J'ai eu un camarade ouvrier chez Renault qui un jour m'a ébloui parce qu'il n'était pas économiste et moi je l'étais, en disant finalement ça reviendrait moins cher. Que tout le monde ait des Rolls-Royce, qu'il ait des 4 chevaux Renault. À l'époque, on faisait les 4 chevaux à l'époque.
Ouais.
J'ai réfléchi 3 secondes, j'ai dit, il y a raison. Parce qu'une Rolls-Royce, ça dure 50 ans. Et que ces Camelot qu'on produit actuellement sont faites pour durer 5 ans.
Vous vous êtes amusé du mot postmoderne. Vous avez dit qu'une société qui ne sait se définir que comme une société de la prémodernité est une société stérile. Est-ce que
c'est une société qui est totalement perdue quant à son identité.
Oui.
Parce qu'elle elle se définit par un poste.
Oui.
Qui êtes-vous, les postmodernes ? Qui serez-vous dans un siècle, les postmodernes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire du tout. Lire tout ce cahier de présence, c'est la seule condition de votre assistance au séminaire, mais elle est absolument impérative.
Est-ce comme savant ?
L'objet essentiel que je voulais traiter devant vous, c'est temps et création.
J'ai effectivement été l'étudiant de Cornelius Castoriadis, donc à l'école des hautes études en sciences sociales.
Olivier Fressard.
Avec ses étudiants, il était très gentil, très, très attentif. Les séminaires, c'est le point de départ, c'est évidemment l'institution imaginaire. Donc le séminaire commence en 1980. Et là, son projet, il a un projet absolument immense, qui est de prolonger, d'enrichir l'institution imaginaire. Il a proposé un moment aux éditions du Seuil un plan de publication assez faramineux en 20 ou 25 volumes, je ne sais plus exactement. Voilà. Et donc le séminaire, c'était le travail effectivement en train de se faire, si vous voulez. C'était un travail original et on le voyait progresser mercredi dans son enquête philosophique. Quoi.
Comment il l'avait appelé ?
Je crois que c'est tout simplement la création humaine. Et ça commençait donc par la partie qui aujourd'hui... en grande partie publié hein, par une enquête sur la Grèce ancienne. Et donc il va s'interroger pendant 4-5 ans, faire une longue enquête avec ses deux volets, d'un côté la démocratie, de l'autre la philosophie, les sciences également, de Homère jusqu'au 5e, 4e siècle. Son enquête est à la fois inséparablement, si vous voulez, philosophique et historique.
Bon, nous allons nous arrêter là parce que je crois qu'il y a plusieurs parmi vous qui veulent me voir. Bonjour.
Il était en marge et à l'intérieur au début dans le mouvement marxiste des courants majoritaires et à l'intérieur des courants minoritaires il était en marge et par rapport à tous les courants intellectuels il n'a jamais trouvé sa place. Il n'était ni... néo-kantien, ni néo-hegelien, ni néo-wittgensteinien, ni structuraliste, ni lacanien, ni foucauldien. Bon, effectivement, il a toujours été en marge. Et il se peut effectivement que dans la mesure où le monde intellectuel français et parisien en particulier est structuré en chapelle, quand il voit quelqu'un comme Castoriadis, il ne voit vraiment pas où le mettre.
Cette forme de pensée, si vous voulez, qui cherchait des bases, pas seulement cognitives, mais des bases dans la connaissance de la réalité, de l'histoire, de l'homme, de la vie, c'est cette pensée-là, que ce type de pensée qu'il a développé et qui est de plus en plus rare dans notre époque et qu'il faut ressusciter.
Je crois que ce que moi je ressens maintenant, c'est que j'ai arpenté une bonne étendue de ce labyrinthe de la pensée humaine, certainement pas à l'avoir épuisé, ni en fait la cartographie, mais il y a pas mal de coins et de recoins de ce labyrinthe qui me sont familiers, il y a des endroits où je peux dire avec certitude, cette voie ne mène nulle part et cette autre voie peut-être mène quelque part.
Cornelius Castoriadis, un titan dans le labyrinthe. Avec Sparta Castoriadis, Zoé Castoriadis, Myrto Gondikas, Manuel Cervera Marzal, Enrique Escobar, Edgar Morin, Florence Juste Desprairies, Olivier Fressard. Merci à Vincent Descombes, Daniel Blanchard, Lakis Progidis, François Borde, Pascaline Bonnet, Daniel Ferron, Julien Delors, François Doss. Lecture, Didier Brice. Prise de son, Yann Frécy, Georges Thau. Archivina, Annie Lozana, Anne Brulant. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Christine Bernard.
un documentaire de Clémence Marie, réalisé par Delphine Lemaire.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.